l'esprit, et il craint aussi que son départ précipité ait pu être interprété comme un abandon. Et dans le message précédent, on a pu voir que Paul est bien conscient que Satan est à l'œuvre pour l'empêcher de revenir à Thessalonique et de poursuivre l'enseignement qu'il a commencé. Et aux trois premiers versets du chapitre 3, il dit « C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager, touchant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ses tribulations. » Alors là, je vous ai mis en diapositive le deuxième voyage missionnaire de Paul. Enfin, j'ai centré surtout sur la région. Vous voyez que Paul a été particulièrement actif et l'église de Thessalonique est tout en haut là-bas. Nous pouvons lire le premier verset du texte qui nous intéresse aujourd'hui, donc au verset 6. Donc Timothée rentre et fait son rapport. Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. Les nouvelles apportées par Timothée sont rassurantes. L'église de Thessalonique tient bon, on pourrait dire, dans l'adversité, et elle reste attachée à Paul. Alors intéressons-nous maintenant aux réactions de Paul. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Paul se dit encouragé par la foi des Thessaloniciens. Son travail n'a pas été vain. Sa mission, qui consiste à apporter la bonne nouvelle, n'a pas échoué. Et vu l'importance de l'enjeu, c'était rappelé dans la présidence, il s'agit du salut des âmes, le message de l'Évangile, c'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, en confrontant à la fois les angoisses de Paul, parce que comme berger, il se sent responsable du troupeau que Dieu lui a confié, mais aussi son réconfort après le compte-rendu de Dieu, de Timothée, pardon. Et puis on peut également remarquer que Paul a encouragé les Thessaloniciens à persévérer, et qu'en retour, la persévérance des Thessaloniciens l'encourage, lui. Et je me dis que l'exemple de chrétiens persévérants et fidèles est un encouragement. Leur foi, leur fidélité sont des exemples à suivre. Et je me dis que là, il y a peut-être un enseignement pour nous aussi. On peut être à la fois encouragé et encourageant. Encouragé par l'enseignement reçu dans l'Église, par des manifestations d'amour fraternel lorsqu'un frère ou une sœur prend le temps de vous demander comment vous allez, de vous envoyer un petit mot dans la semaine, de prier pour vous. Mais on peut être encourageant aussi lorsqu'à notre tour nous prêtons attention à ceux qui souffrent dans l'Église ou lorsque nous disons notre reconnaissance pour les ministères exercés dans l'Église. Tu m'excuseras pour ta modestie, mais je suis encouragé de voir comment tu t'es engagé dans la présidence et comment ta jeunesse et ta fraîcheur sont un encouragement pour nous aussi. Paul se dit aussi reconnaissant à Dieu. Et j'y vois une marque d'humilité de la part de Paul qui ne s'attribue pas du tout le mérite de la conversion des Thessaloniciens, mais qui remercie Dieu de ne pas avoir travaillé en vain. Comme nous l'avons vu dans le message précédent, Satan est à l'œuvre pour contrarier le travail missionnaire de Paul et seul Dieu a le pouvoir de le faire vaincre. La reconnaissance est une source d'engagement puissante. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté quand quelqu'un vous dit simplement « merci ». On n'a pas besoin de longs discours. Un simple merci suffit à entretenir une motivation, à renouveler le zèle, à resserrer les liens d'amour fraternel. Et Paul se dit joyeux devant Dieu. Si on se rappelle le contexte, je veux dire, il a dû fuir. Il a été roué de coups. Il a eu peur pour sa vie. Et tout ça, c'est pas fini, parce que partout où il passe, il sème exactement les mêmes conséquences. Eh bien, il est joyeux devant Dieu. Quel contraste avec l'angoisse qu'il ressentait avant le retour de Timothée. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, mais Paul se dit joyeux devant Dieu comme il était reconnaissant à Dieu. Paul se voit sans cesse en serviteur de Dieu, rendant compte à Dieu, voyant les choses à travers le prisme de Dieu, autant que cela soit possible à un homme. Deux autres citations concernant la joie à travers les épreuves. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. C'est difficile de se réjouir dans ces circonstances-là. Et on a une clé ici à la fin du verset. Pourquoi se réjouir? Pas pour le moment, mais pour être rempli de joie quand il paraîtra dans sa gloire. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 11 ou 12, dit aux disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » Si Paul parvient à se réjouir malgré les persécutions dont il est victime, c'est qu'il pense sans cesse au but final, à la récompense à venir. Il porte son attention sur ce qui demeurera éternellement plutôt que ce qui se passera dans le temps. Paul se réjouit et pourtant il continue à mener le combat dans la prière. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance. Paul prie que Dieu aplanisse sa route vers Thessalonique pour lui permettre de compléter son enseignement. Il est probable que Timothée lui a fait part de quelques problèmes qu'il a pu constater dans l'église de Thessalonique, même si l'église de Thessalonique nous est présentée comme une église qui va bien, rien n'est parfait. Et Paul veut donc compléter son enseignement probablement au sujet de questions que Timothée lui a rapportées. Et il insiste dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui sur trois thèmes. Progresser dans l'amour, fuir l'impudicité, la débauche, et condamner un mode de vie oisif, conséquence d'une mauvaise compréhension de la doctrine de la fin des temps. Thessaloniciens 3:12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Grandir, progresser, déborder dans l'amour des frères et des sœurs, mais aussi des païens. Et Paul se donne lui-même en modèle. Alors on peut être surpris, notre modèle, ce n'est pas Paul. Mais le modèle de Paul, c'est Jésus-Christ. Et je pense que si Paul se donne en exemple, ce n'est pas du tout une preuve d'orgueil. C'est simplement qu'il veut montrer qu'il s'applique à lui-même les consignes qu'il donne aux autres de la part de Dieu. La preuve, l'encouragement, l'exhortation par l'exemple. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a le plus de convaincant? Est-ce que ne vous êtes jamais dit en entendant de belles paroles, ben, commence donc par te l'appliquer à toi-même? C'est par l'exemple que Jésus mit le comble à l'amour de ses disciples en leur lavant les pieds. Vous pouvez relire cela dans Jean 13. Et quel exemple aussi que de monter sur la croix pour donner sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Lui seul a su nous donner l'exemple de l'amour parfait et mettre en harmonie ses paroles et ses actes. Vous vous souvenez comme moi du premier de tous les commandements ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je suis convaincu que si nous parvenions à progresser dans l'amour de l'autre, comme Paul le demande pour les Thessaloniciens, notre témoignage serait aussi bien plus puissant. Nous aussi, nous avons besoin, comme les Thessaloniciens, que Dieu fasse grandir, déborder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous les hommes. Et qu'est-ce que nous avons comme autre exemple d'amour dans l'Écriture ? Quand on vous parle d'amour, est-ce qu'il y a un texte qui vous vient spontanément à l'esprit ? Un Corinthiens 13, je pense qu'on n'a pas besoin de commentaires. Moi, c'est un texte que j'ai lu, relu et qui me fait toujours autant de bien quand je le lis. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour du Christ, c'est ça. Il a tout pardonné. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Oui, nous avons besoin de progresser. Lisons à présent le verset 13. Que Dieu donc affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le but que Paul poursuit et qu'il nous invite à poursuivre, c'est d'être trouvé irréprochable devant Dieu lors du retour de Jésus-Christ. Alors nous savons bien que nous ne sommes pas irréprochables par nos propres moyens, par nos propres valeurs, mais que Dieu nous regarde comme tels lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix. Paul prie qu'il n'y ait aucun motif d'accusation dû à un manque de sainteté. Car c'est là, ou du moins ça devrait être toujours notre but ultime, nous préparer à rencontrer Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, il dit aux Corinthiens, « Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de votre Seigneur Jésus-Christ. Dieu participe à notre sanctification, son esprit œuvre en chaque croyant. » Paul s'adresse ici à une église en bonne santé spirituelle, je l'ai déjà dit, et pourtant il l'invite à progresser encore, à travailler sans relâche à sa sanctification. Et il est souvent bon de se rappeler ce que veulent dire les mots. La sanctification, c'est l'état de séparation d'avec le péché. J'ai trouvé dans la Bible de mon épouse une note qui m'a paru intéressante de partager avec vous. La sainteté n'est pas un état que l'on atteindrait en travaillant avec acharnement, grâce à de bonnes œuvres et à une peur constante de l'échec. La progression dans la sainteté est un processus qui fait partie intégrante de la vie chrétienne. Dès que nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nous, nous sommes considérés comme saints par Dieu. Mais nous devons apprendre et progresser tout au long de notre vie sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous et nous rend conformes à l'image de Christ. Romains 8, 29 notamment. Continuons notre lecture au chapitre 4. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Paul veut ici lutter contre l'immoralité sexuelle qui règne à l'époque. Les comportements sexuels étaient très libres dans l'Empire romain. On y pratiquait la prostitution sacrée, la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors du mariage, l'homosexualité, la pédophilie, enfin il y a toute une liste qui est annoncée. Et tout cela sans aucun sentiment de culpabilité. Ces pratiques étaient communément admises. De nos jours aussi, beaucoup de nos contemporains ont une vision totalement faussée de la sexualité. Ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais si on essaye de résumer l'opinion, alors je ne dis pas que tout le monde pense ça, mais c'est quand même une opinion partagée par beaucoup, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, et toute relation sexuelle est autorisée, quelques exceptions quand même, les mineurs de moins de 15 ans, puis il faut qu'il y ait consentement mutuel, sinon pas de barrière. L'activité sexuelle est conçue essentiellement comme une source de plaisir, de satisfaction personnelle, pour certains même comme un loisir. Avoir des rapports sexuels agréables est, croit-on, le facteur le plus important dans une bonne entente conjugale. Alors, si on pense ça, eh bien, la première chose qu'on vérifie, c'est qu'on est compatible avec quelqu'un d'autre. Et donc, on va s'engager tout de suite dans une relation sexuelle avant de construire autre chose et une relation durable. Une relation durable. Combien de gens jugent encore utile de se marier aussi, de prendre un engagement ferme? Je ne veux pas généraliser, mais enfin, on voit bien quand même que de plus en plus, le mariage n'est plus pris au sérieux. La satisfaction immédiate est considérée comme plus importante que la satisfaction différée. Pour certains, le partenaire sexuel est un bien de consommation. Une fois que le plaisir n'y est plus, eh bien, on se sépare. Il y a quelques années de ça est sorti un film dont le titre était « L'amour dure 3 ans ». On confond ici le sentiment amoureux, la passion amoureuse, le « eros » en grec, et l'amour véritable, l'amour désintéressé, l'amour qui donne, celui qui ne meurt jamais. Je voudrais simplement rappeler ce matin que Dieu a donné un cadre pour la sexualité. Ce cadre, c'est le mariage. Alors les formes de mariage changent d'une société à l'autre. On ne célébrait pas les mariages à l'époque d'Abraham comme on les célèbre aujourd'hui. Mais il y a tout le temps cette dimension d'une alliance entre un homme, une femme, un engagement total de l'un et de l'autre, durable et exclusif. Hébreux 13, verset 4, dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Je vous relis les versets 3 à 5 du chapitre 4, mais dans la version du Semeur cette fois-ci. « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. De nombreux versets de l'Écriture insistent sur la gravité de l'adultère. 1 Corinthiens 6, verset 18, dans la version du Semeur, « C'est pourquoi fuyons les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Éphésiens 5, verset 5, « Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Au verset 6 que nous avons lu, « Que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère, il s'agit là d'adultère, ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. » Et au verset 8, « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » La pureté sexuelle, ce n'est pas une option, ce n'est pas simplement un choix qu'on fait comme ça si on en a envie. C'est un des commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Et l'adultère, ce n'est pas seulement le passage à l'acte qui a toujours des conséquences graves, mais il nous dit que même celui qui regarde en convoitant, même s'il n'a pas encore commis l'acte, le simple fait de penser, c'est déjà un adultère dans son cœur. On voit que Dieu, là, n'est pas laxiste. Sa loi est vraiment pure. Reprenons notre lecture au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi parce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ici, on aborde un autre thème qui est, on va dire, la vie avec les autres. Paul dit dans l'Épître aux Romains, au verset 18, « Si cela est possible, au chapitre 12, pardon, du verset 18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et ici, il nous donne quelques conseils pratiques. Occupez-vous de vos propres affaires. Ne soyez pas négligents. Occupez-vous de vos affaires. Ne laissez pas les choses aller à la dérive. Mais de vos propres affaires. Ne soyez pas curieux, intrusifs. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Et je me dis qu'on a plein de domaines d'application. Dans la famille, dans les relations avec le voisinage, avec les collègues de travail. Il y a des moments où on est spectateur de choses, ben, c'est pas à nous d'aller régler ça, quoi. À d'autres moments, si. Il faut avoir du discernement. Paul insiste aussi pour que les Thessaloniciens subviennent à leurs propres besoins. Il veut corriger ici une mauvaise compréhension de la fin des temps. Certains pensent que le retour du Seigneur étant proche, ben, c'est plus utile de travailler, c'est pas la peine de préparer l'avenir. Et on peut se rappeler aussi qu'à cette époque, dans la culture grecque, le travail s'était réservé aux esclaves. Ce n'était pas bien vu de travailler. Alors, puisque la fin est proche, eh bien, arrêtons. Et puis, ben oui, mais il faut vivre quand même. Ben, les autres sont là pour ça. Ils vont nous inviter à... et on va vivre à leur crochet. Paul dénonce cette façon de faire et il se donne là encore en exemple. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors en préparant cette méditation, j'ai eu peur que si parmi nous il y ait des gens qui sont privés de travail, ils croient que je parle d'eux. Ce n'est pas du tout le cas. Ils nous parlent de gens qui refusent de travailler et qui s'occupent de futilité. Hein, donc que ce propos soit bien clair. Une mise en garde aussi peut-être pour nous. Il ne faut pas confondre la solidarité fraternelle et une certaine forme d'exploitation. Quelques-uns, quelquefois, on pense que la solidarité des autres va un peu plus loin que ce que nous, on penserait qu'elle devrait aller, quoi. Hein ? Soyons vigilants là-dessus aussi, c'est parce qu'on est entre chrétiens que tout est permis et que tout peut se faire. Paul invite chacun à subvenir à ses propres besoins et il dit « Ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. » L'importance du témoignage que nous donnons aussi. Et vous ne serez dépendant de personne. Ça aussi, si on veut être libre, il faut ne dépendre de personne. Alors, quelle conclusion donner ? Eh bien, dans cette épître, nous voyons les préoccupations d'un pasteur au sujet de ses enfants spirituels. Ce que Paul enseigne dans le passage que nous avons médité ce matin était déjà connu des Thessaloniciens, même si la suite de l'épître montrera qu'ils ont encore besoin d'être éclairés sur certains points. Mais Paul les invite surtout à mettre en pratique les instructions reçues, à persévérer dans la recherche de la sanctification. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, c'est très bien que nous n'en sommes pas capables, mais au moins de mettre nos actes en accord avec ce que nous avons compris et ce que nous savons être la volonté de Dieu. Persévérer dans l'obéissance en vue d'être irréprochable lors du retour de notre Seigneur. Alors dans notre texte, il a mentionné le domaine de la sainteté, de l'exclusivité de la relation sexuelle dans le mariage, de l'amour fraternel, de l'abus de certains, de la solidarité communautaire. Chaque communauté, chaque chrétien connaît des circonstances différentes et nous ne péchons pas tous de la même façon. Par contre, nous sommes tous appelés à persévérer dans l'amour et dans l'obéissance. Je vous laisserai quelques pensées pour terminer, des encouragements. Travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Amen.